Midi 20 minutes, ici François Delisle au micro. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'Épreuve des faits. Pour ce premier segment, je suis rejoint en studio par le journaliste Philippe Pesant-Bellemare. Bonjour Philippe.
Bonjour François.
Et nous accueillons en studio M. Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec. Bonjour M. Duhaime.
Bonjour.
Alors, c'est l'occasion justement d'en apprendre un peu plus sur vos positions. Je laisse Philippe mener l'entrevue.
Oui, bien, dans un premier temps, M. Duhaime, on voudrait peut-être savoir un peu qu'est-ce qui vous amène aux îles à ce moment-ci de l'année. On n'est pas encore en période électorale. Évidemment, ça n'empêche pas les chefs de parti de se promener sur le territoire, mais qu'est-ce qui vous a motivé à venir aux îles aujourd'hui?
C'est le beau temps. On est chanceux, c'est les premières belles journées. Non, sérieusement, ça fait partie d'une tournée des régions. Quand on est chef de parti, c'est une des choses les plus agréables, c'est de faire le tournée des régions. J'étais venu à peu près un an après mon élection, il y a deux ans environ, quand j'ai été élu chef du Parti conservateur du Québec. Pour toutes sortes de raisons, j'étais pas revenu, mais je pense que c'est important de le faire. On est en préparation d'un congrès qui aura lieu cet automne, il va être beaucoup question d'autonomie des régions. Et votre région a plusieurs particularités qui font en sorte qu'il faut tenir compte de ça. Puis je voulais avoir le pouls des gens de la région, donc je pense que ça, c'était une autre raison importante. L'autre élément, c'est que, évidemment, on est à deux ans et demi de l'élection, c'est quand même encore loin, mais il faut se préparer. La dernière élection, tout est arrivé très rapidement en un an. J'ai été élu un an avant l'élection. Il fallait trouver 125 candidats, ramasser 5 millions de dollars, se doter d'un programme, créer 125 associations de circonscription. Donc, on avait un travail colossal. Là, on a plus de temps, donc il faut faire les choses correctement, sensibiliser les militants. D'ailleurs, je vais les rencontrer ce soir. Donc, il faut mettre les choses en place pour la prochaine campagne électorale. Et je vous cacherai pas aussi que ces derniers temps, on a été interpellés en raison de ce qui s'est passé aussi au niveau local. Il y a eu un débat local qui a attiré l'attention de la presse, puis les médias nationaux, puis les partis politiques nationaux. On a été le seul parti qui s'est levé.
On parle de la passe archipel.
On est le seul parti qui s'est levé pour dire, écoutez, la liberté de circulation au Québec, c'est important. C'est inscrit dans nos chartes, autant québécoises que canadiennes. Et on est les seuls à s'être levés pour dire, ben, je pense que ça serait important de ne pas créer un précédent aux îles. Puis les gens qui s'étaient levés, je voulais les rencontrer en personne, et c'est ce que je suis venu faire, entre autres, aussi ces jours-ci.
Et donc, vous aviez qualifié notamment la mesure de liberticide.
Oui.
J'aimerais savoir un peu, selon vous, là maintenant que la municipalité des Îles a rendu non contraignante la redevance liée à la passe archipel, à votre avis, là, vu que vous êtes pensé sur la question, quelle devrait être la suite des choses dans ce dossier-là?
Ben, je pense que le fait que ce soit volontaire, c'est très correct. Moi, ce que j'en ai, le fait que la municipalité, puis c'est vrai pour les Îles, mais c'est vrai pour toutes les municipalités du Québec, ils peuvent taxer les gens. Là, c'est la municipalité a le pouvoir de taxer. Cela étant dit, moi, ce que j'aimais pas, c'était la contrainte au niveau de la liberté de circulation. Si on commence à mettre des barrières entre chacune des municipalités du Québec, c'est pas parce que vous n'êtes pas attaché au continent que vous n'êtes pas une municipalité du Québec. Et pour moi, c'était important ce principe-là qu'il fallait préserver la liberté de circulation des Québécois sur le territoire.
Il faut se rappeler, par contre, évidemment, que ce n'est pas vraiment une taxe, c'est une perception à travers un règlement, mais c'est pas une taxe parce que les pouvoirs de taxation des municipalités sont très limités, donc c'était une façon
d'aller chercher des revenus. Appelons ça une source de revenus pour la ville.
Et parlons justement des sources de revenus, pour les municipalités. Avez-vous l'impression que les municipalités au Québec ont les coudées franches financièrement avec l'ensemble des responsabilités qui leur ont été octroyées par Québec au fil des dernières décennies? On parle de responsabilités sociales, économiques, culturelles, etc. Avez-vous l'impression justement que les municipalités devraient faire appel à ce genre de mesures-là pour améliorer leur situation financière?
J'en ai justement parlé avec votre maire il y a quelques heures. Je pense que c'est important que effectivement on revoie l'ensemble des responsabilités. Tu sais, historiquement, puis c'est correct aussi, là, une ville, c'est s'assurer, par exemple, que vos routes sont en bonne condition, que votre système d'égout fonctionne bien, que vos déchets sont ramassés périodiquement de façon correcte, la ville est propre. C'est pas nécessairement de sauver la planète puis de penser contrôler la température de la grandeur de la planète. Tu sais, il y a différentes municipalités, différentes administrations qui se donnent différents mandats. Cela étant dit, le gouvernement du Québec, puis on le voit de plus en plus, on vient de le voir pas juste aux îles, là, à Montréal, avec un droit d'immatriculation à 150 $ du véhicule. Les gouvernements n'aiment pas annoncer des augmentations de taxes. Hein, il n'y a pas personne, un politicien, même moi le premier, tu ne veux pas annoncer des augmentations de taxes parce que ce n'est pas populaire. Cela étant dit, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils disent, ah ben garde, je vais te donner la patate chaude, puis ça va être les villes qui vont annoncer des augmentations de taxes plutôt que moi, puis c'est eux qui vont porter l'odieux de vouloir taxer le citoyen. Fait qu'il y a beaucoup de ça aussi, il y a de la bataille politique là, pour savoir qui va payer le prix.
Ce qui est là-dessus, justement, on parle de il y a eu des responsabilités supérieures qui ont été données aux municipalités à partir de 2017 oui. Avec le projet de loi 122.
Exactement ça.
Et dites-moi, justement, on parle de nouvelles responsabilités, mais il n'y a pas nécessairement eu de transfert de points de taxation, par exemple, pour des revenus supplémentaires un peu, mais pas à l'échelle des responsabilités. Est-ce que le Parti conservateur du Québec, justement, voudrait transférer des pouvoirs de taxation aux municipalités, décentralisées? Parce que, entre autres, tous ces nouveaux paiements-là que vous mentionnez, c'est assez proche aussi aussi d'un principe utilisateur-payeur
Exactement.
Que vous défendez souvent par ailleurs.
C'est important ce que vous dites là. D'abord, c'est le même contribuable. Hein? Que le gouvernement s'appelle provincial, fédéral ou municipal, quand il taxe, là, c'est le même portefeuille sur lequel il frappe. Et nous, en tant que conservateurs, là, on veut que les gens qui travaillent, qui nous écoutent, il y ait plus d'argent dans leur portefeuille à la fin de la semaine, pas moins. Puis pas plus de gouvernements qui viennent chercher d'argent. Et pour faire ça, vous avez raison, il faut que le gouvernement du Québec arrête de déborder ou arrête de donner, de se décharger de, sa, de son pouvoir de taxation vers les villes pour que ce soit les villes qui portent le dieu. Fait que si oui, on permet aux villes d'aller chercher plus d'argent dans le portefeuille des contribuables, mais il faut que le gouvernement du Québec, parallèlement, s'assure d'aller, lui, en saisir moins. Donc, c'est pour ça que c'est important. Puis dans notre tournée de consultation, là, même un document que je viens de remettre à votre maire, où on a toutes sortes de questions par rapport à ça, de comment on peut opérationnaliser ça. Parce que la dernière fois, on n'a pas eu le temps de présenter une plateforme qui était autonomiste sur le plan des régions. La prochaine campagne électorale, je pense que ça va être un enjeu très important. Puis c'est un principe qui est très conservateur.
J'aimerais peut-être, dans ce contexte-là, parce qu'on parle de financement, de municipalités, tout ça, vous avez mentionné que votre parti travaille présentement justement à présenter une plateforme pour l'autonomie des régions.
Oui.
J'aimerais vous entendre un peu sur votre vision de l'occupation du territoire en régions éloignées. Parce qu'en 2015, vous aviez fait une déclaration, vous savez que vous, je m'en vais avec ça, là, dans laquelle vous disiez souhaiter fermer la Gaspésie parce que vous trouviez alors que la région et sa population coûtaient trop cher à l'État. Vous avez depuis, indiqué avoir changé d'idée, notamment après être devenu chef du Parti conservateur du Québec. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis là-dessus?
Bien, d'abord, d'un point de vue philosophique, là, le Parti conservateur du Québec, comme tous les partis conservateurs à Ottawa, c'est la même chose. On est des partis qui croyons qu'il faut réduire les subventions puis donner plus d'argent aux travailleurs dans leur portefeuille. Okay? On croit que l'individu doit avoir plus de pouvoir, de contrôle sur sa vie puis donner moins ça dans les mains du gouvernement. Cela étant dit, ce qui a changé depuis 2015, c'est que, puis on l'a vu pendant la crise sanitaire, à cause des nouvelles technologies, à cause de la crise, les régions qui, historiquement, voyaient les jeunes souvent, il y avait un exode vers les grands centres. Là, on voit de plus en plus le contraire. Hein. On a vu que Montréal a de la difficulté à avoir de la rétention de sa population. Les gens veulent se déplacer dans des régions comme la vôtre. Ça, il n'y a personne ou à peu près qui avait vu ça venir. On vit le contraire, le phénomène inverse, une tendance lourde qui s'est complètement inversée au Québec ces dernières années et que ça risque de s'accentuer. Même si la crise est finie, la technologie permet de plus en plus, par exemple, le télétravail. Puis une région comme la vôtre, qui ne voudrait pas vivre aux îles tellement c'est beau? Donc, on va vivre le phénomène inverse, puis il faut s'ajuster à cette nouvelle réalité-là.
C'est quand même intéressant, justement, cette idée-là, sauf que malgré tout, comment est-ce qu'on occupe le territoire en sachant que même avec ce retour-là des jeunes, il demeure que, par exemple, le traversier, l'hôpital aux îles, il y a certains services collectivisés à travers les gouvernements fédéraux et provinciaux qui coûterait peut-être trop cher si c'était directement par le contribuable. Est-ce qu'on risquerait pas de dévitaliser la région si on arrêtait de subventionner ces services-là? Là?
C'est sûr que les îles de la Madeleine, c'est toujours un cas particulier à tous les niveaux, je l'ai dit puis je le répète. Puis le Québec a une responsabilité par rapport aux îles. Vous faites partie à part entière du territoire québécois. Et pour ça, il faut s'assurer de maintenir un lien. Et ça, c'est fondamental pour nous. Puis même le fait que vous payez, par exemple, quand vous prenez le traversier à l'île du Prince-Édouard, c'est quand même assez particulier. Vous êtes les seuls citoyens au Québec qui, pour passer à une autre municipalité au Québec, vous devez payer 50 $ ou presque. Là,
C'est plus élevé que ça.
C'est pas 50 $ passer sur le pont.
Pour un citoyen tout
c'est
seul,
ça.
Sans voiture.
Ah, vous parlez du pont, oui.
Oui,
okay.
je parle du pont de la Confédération. Là. Et c'est 50 $, je crois, le tarif. Là.
C'est augmenté, là.
Environ, par yeux.
Mais donc, c'est quand même beaucoup d'argent. Puis vous êtes dans une situation très particulière. Puis je suis sensibilisé à ça. Puis je pense que c'est important de... Il faut s'assurer qu'il y a quand même une égalité des chances. Puis votre région, ça, c'est pas une égalité des chances.
Mais comment on la supporte, cette égalité des chances-là, si c'est pas par des investissements, par exemple, publics?
Oui, c'est sûr qu'il va falloir... Tu sais, il y a un coût à ça. Il y a un coût à avoir un territoire qui est grand. Puis on n'a pas le choix. Là, on a besoin d'infrastructures. Et il y a aussi, là, tu sais, ce matin, là, je sais pas si vous avez vu le Devoir, ils parlent de taxes kilométriques, puis on en parle de plus en plus à Québec. Moi, ça m'inquiète beaucoup pour les gens des régions. Pour les gens des îles, mais toutes les régions du Québec. Et quand tu habites une région... Je veux dire, tu n'as pas beaucoup de choix. Ici, le transport en commun, c'est une définition très minimale là, que vous avez. Il n'y a pas de métro qui se promène de la Grosse-Île jusqu'à Cap-aux-Meules. Donc, il faut prendre ça en considération. S'il y a des taxes kilométriques, c'est des taxes qui pénalisent les régions du Québec. Moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport aux nouvelles formes de taxation qu'on veut imposer aux Québécois. Ça représente, là, juste pour ce matin, l'idée qui est lancée là, par la chaire de recherche, c'est 560 $ par personne que ça représenterait en taxes. Pour les gens des îles, ça serait encore plus élevé.
Puis c'est quoi vos solutions à ce moment-là, dans ce contexte-là, dans le contexte de cette discussion-là qu'on a, pour favoriser l'autonomie des régions, justement?
Bien, c'est d'abord de réduire le coût de l'État. Vous savez, M. Legault, quand il est arrivé au pouvoir, il avait promis, par exemple, de réduire la taille de l'État de 5 000 employés. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a augmenté le nombre d'employés de l'État de 55 600. Donc, pour chaque job qu'il avait promis d'éliminer, il en a créé 11 nouvelles. Il avait promis, par exemple, de balancer les livres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déficit. On a enregistré cette année le pire déficit de l'histoire du Québec à 11 milliards de dollars. Je pense que le gouvernement du Québec a du ménage à faire dans ses dépenses. C'est ça que le Parti conservateur souhaite faire.
Rapidement là-dessus, Monsieur Duhaime, parce que vous parlez de faire le ménage, de réduire la taille de l'État, oui. Mais vous parlez en même temps du besoin de maintenir des infrastructures publiques qui permettent d'occuper le territoire aux îles. Comment on réconcilie les deux? Comment on fait la quadrature
du cercle? C'est sûr que c'est un défi, puis c'est toujours un défi. Cela étant dit, c'est pas dans les régions que les 55 600 emplois ont été créés. Moi, je suis un gars de la région de Québec, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup que ça a été dans cet endroit-là. Quand je vois notre système de santé où on est rendu qu'il y a une personne sur deux qui travaille dans la bureaucratie plutôt que d'offrir des soins aux patients, on a un problème. Les Québécois, c'est pas parce qu'on n'investit pas assez, c'est parce qu'on investit mal. Et je pense que ça, c'est important de dégraisser la machine, puis de décentraliser justement pour rapprocher ce pouvoir-là des citoyens, notamment des îles.
Il y a peut-être un aspect quand même dans votre plateforme aussi où ce que pour stimuler la richesse de l'État, oui. La richesse du Québec. Une de vos 5 grandes propositions, en fait, au Parti conservateur, c'est de permettre l'exploration de nos hydrocarbures au Québec. Bon, vous êtes sans doute pas sans ignorer la controverse qui avait été soulevée là, durant à peu près 2 décennies là, aux Îles-de-la-Madeleine concernant l'exploitation potentielle du gisement de Old Harry dans le golfe du Saint-Laurent à la frontière avec Terre-Neuve. Le projet, bon, a été subséquemment abandonné à la fin des années 2010, mais comment est-ce que vous vous positionnez en ce qui a trait à l'exploitation de ce site-là dans le contexte où vous souhaitez l'exploitation des hydrocarbures? Est-ce qu'on doit rester au statu quo ou est-ce qu'on doit relancer ce
d'abord,
projet-là?
Quand on parle d'exploitation des hydrocarbures au Québec, il faut comprendre que présentement, le Québec est à 100% dépendant des hydrocarbures qui viennent de l'extérieur. Le Québec a, puis c'est pas ici, là, c'est plus dans la région de Lobinière, puis le long de la vallée du Saint-Laurent, le Québec a la plus grosse réserve de gaz naturel non exploité au monde. Et on choisit, on fait rien pour l'environnement, le fait qu'on importe du gaz qui vient de milliers de kilomètres plutôt que d'exploiter le gaz qui est sur notre territoire. François Legault avait été élu en promettant que le Québec allait devenir la Norvège d'Amérique et qu'on exploiterait nos hydrocarbures au Québec. Non seulement il n'a pas rempli sa parole, il a passé un projet de loi pour empêcher toute forme d'exploration ou d'exploitation du gaz. Pour nous, ça semble quelque chose qui est totalement contradictoire et non souhaitable. Moi, je souhaite justement qu'on présentement, là, si le Québec exploitait son gaz naturel, on aiderait à la diminution des gaz à effet de serre à grandeur de la planète. Il y a des usines présentement, là, des centrales en Europe qui sont en train d'être transformées du gaz naturel au charbon parce qu'il y a une guerre, comme vous savez, en Ukraine. Les Européens se font plus approvisionner parce que les Russes ont coupé les approvisionnements. Et là, on se ramasse avec 60 % plus de pollution parce que le Québec est incapable d'aider ses partenaires. Moi, je trouve ça totalement contradictoire.
Mais pour ce qui est du gisement de Old Harry, pour oui. vous, là-dessus, est-ce qu'on doit relancer ou rester au statu quo?
Très honnêtement, le gisement de Old Harry n'est pas celui qui présentement retient l'attention dans le sens où c'est pas là où il semble y avoir une meilleure rentabilité. Les projets qui présentement iraient de l'avant sont davantage dans la vallée du Saint-Laurent, particulièrement dans la région Lobinière. Là, c'est dans ce coin-là où il y a le plus de rentabilité puis où ils sont le plus avancés et où ils sont prêts à aller de l'avant. Donc, je pense pas que... C'est sûr que moi je suis pas nécessairement fermé. Là. S'il y a des investisseurs puis il y a des gens des îles qui ont une acceptabilité sociale, moi, je suis pas contre. Là. J'ai aucun... préjugé défavorable. Mais encore faut-il qu'on, un, on démontre la rentabilité, puis deux, qu'il y ait une acceptabilité sociale.
En conclusion, M. Duhaime, justement, autour de ces questions-là, il y a également une question importante aux îles, c'est l'érosion, les submersions côtières dues au changement climatique. Comment, justement, on termine en stimulant l'économie, favorisant ce que vous visez à favoriser, que vous nous avez expliqué, sans nécessairement ajouter au fardeau de l'État, tout en intervenant?
Ouais. D'abord, il y a beaucoup de choses qui sont dites ces derniers temps là, où j'étais très déçu. J'ai entendu notamment le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, le dire que c'est parce qu'il y avait trop de touristes aux îles. Là. Je veux juste être sûr que tout le monde se comprend. Là, c'est pas la faute des touristes aux îles s'il y a une érosion des berges. Là. Il faut quand même pas dire que c'est de la faute de ces gens-là.
Je pense que la plupart des gens le savent.
Bon, ouais. Merci. Mais il faut pas culpabiliser, puis il faut pas penser que... Il faut pas apporter une mauvaise solution à un problème qui nous dépasse. C'est pas en taxant davantage les Québécois qu'on va changer le cours de...
Mais comment vous proposeriez d'intervenir?
C'est ça, sans changer le cours, mais comment garantir l'adaptation?
Je sais que les environnementalistes aiment pas ça, là, mais je viens juste de vous donner un exemple. Si jamais le Québec disait oui à exploiter son gaz naturel, puis qu'on réussissait à éliminer 60 % des gaz à effet de serre des centrales au charbon européen actuelles, le Québec ferait énormément, on ferait plus que nos propres émissions. On réussirait à éliminer davantage que tout ce qu'on produit.
En termes d'émissions, supposons qu'on vous donne raison parce que j'ai pas vérifié.
Je vais vous donner les chiffres.
Ah, je vous fais confiance, on va. Mais pour ce qui est de l'érosion, qu'est-ce qu'on fait aux îles par rapport à ça?
Bien, c'est sûr que c'est un défi, puis c'est pas, il y a pas de solution miracle. Il n'y a pas un politicien qui peut dire, qui peut lui-même contrôler ça. Il y a toutes sortes de. Il y a différentes petites solutions, micro-solutions, mais il n'y a pas une solution globale qui peut venir uniquement du gouvernement du Québec, puis ni de la municipalité des îles.
Oui, par exemple. Oui.
Quel genre d'intervention vous feriez ou vous privilégieriez, pardon?
Ben, moi, ce que je vous dis, c'est que je veux qu'on réduise les gaz à effet de serre. C'est sûr qu'il faut avoir un plan, et on en a un. Il faut s'assurer aussi qu'on respecte les usages exclusifs, là, qu'il y a des. Mais je pense pas que c'est nécessairement. Faut aussi prendre conscience qu'il y a un bout, que c'est pas le gouvernement qui contrôle. Faut arrêter de penser que le gouvernement peut vous livrer puis peut régler le problème avec un coup de baguette magique. Ça n'existe pas. C'est une fumisterie, pensez ça, là.
Monsieur Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir.
Ça a été un grand plaisir. Merci à vous.
Merci à vous.
Au revoir.